Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes en 2026, Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cet épisode du mois de mars où on va parler de SPA, de MPA, on va parler évidemment de modèles français, on va parler de Laravel, on va parler du nouvel acteur, mais même s'il est là depuis super longtemps, de Vite, de Void et de petites études intéressantes sur les tests et les refactos, la maintenabilité des modèles. Ou en tout cas des bases de code qui sont faites par l'IA, qui sont vibe codées. Très intéressant. Je te propose qu'on attaque tout de suite, Patrick.
Ouais, c'est parti.
Allez, petit retour et petit article d'une des personnes de l'équipe plutôt un gros site français, qui ont fait une migration, qui sont passés de SPA à des MPA. Pour des raisons uniquement de performance. Est-ce que on pourrait peut-être déjà redéfinir SPA, MPA?
Ouais, SPA, Single Page Application. Donc, c'est une application qui une fois qu'elle est chargée, on va naviguer dans le navigateur. Il n'y a plus de rechargement de page. Alors que MPA, c'est Multi-Page Application. Donc là, chaque fois qu'on clique sur un lien, ça recharge la page à chaque fois, en fait.
Et ça paraît contre-intuitif de dire qu'ils ont fait ce move-là pour gagner en performance, parce que normalement on avait dit ouais, ça sera plus performant. Et là, en fait, ils ont obtenu des meilleurs résultats avec une MPA. Pourquoi et comment ils ont réussi à faire ça?
Alors en fait, alors déjà j'ai un gros doute. Alors c'est Raphaël, je crois qu'il s'appelle celui qui a écrit l'article. Alors si Raphaël, tu nous écoutes et tu es invité au podcast pour venir nous parler de tech, de comment ça se passe chez l'équipe, tout ça, parce que vous êtes un site à fort trafic et c'est toujours très intéressant d'avoir des retours comme ça. En gros, si tu veux, ils se sont rendu compte qu'ils avaient beaucoup de personnes qui venaient après une recherche ou n'importe quoi sur le site, consultaient l'article et repartaient. Donc en gros, beaucoup de personnes qui font une seule consultation de page. Et le fait d'avoir une SPA, bah, on le sait très bien, ça va charger beaucoup de JavaScript, etc., pour pouvoir naviguer au niveau du site après derrière. Sauf que ces personnes-là, bah, elles naviguent pas après une fois qu'ils ont consulté l'article, elles repartent. Donc en gros, ils se sont rendu compte que c'était plus intéressant pour eux de repartir sur de la simple page qui est chargée MPA. Et du coup, ça fait moins de JavaScript chargé, etc. Donc, c'est vrai qu'on est. Et ils se sont rendu compte qu'il y a vraiment un gain de performance à ce niveau-là. Donc, après, il me semblait qu'ils étaient sur du Next, mais ça reste à confirmer. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais ça faisait. L'équipe était un journal qui avait migré assez rapidement sur du SPA. On avait déjà parlé, je pense, dans les épisodes une
Assez
fois.
tôt, ouais.
Assez tôt, ouais, ils sont passés sur ces technos-là et c'était bien. Et là, ils sont partis sur un truc apparemment un petit peu inspiré d'Astro, avec des Island Components, des trucs comme ça. Donc, un truc un petit peu maison. Donc, je sais pas comment ils l'ont construit aussi. Ça peut être intéressant à creuser. Là, ils expliquent pas en détail. Mais voilà, c'est du rendu HTML avec de l'Island Component en fonction de si c'est interactif ou pas.
Et ce
Donc,
qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas cette solution un peu omnipotente qui fait tout, qui est magique et qui marche dans tous les cas. En fait, eux, ils se sont posé la question, OK, nos utilisateurs ont ce type de comportement et dans ce type de comportement, cette technologie est beaucoup plus intéressante parce qu'elle obtient des meilleurs résultats. Et je trouve c'est super intéressant. Et en fait, ça, ils ont pu le mettre en place parce qu'ils avaient du monitoring hyper intéressant et ils voyaient le comportement des utilisateurs au sein de leur application. Et à partir de là, ils ont en fait modifié leur structure, leur architecture pour pouvoir envoyer une meilleure performance. Ouais, c'est un smart. En fait, c'est un move qui paraît assez contre-intuitif comme ça, mais dans leur cas précis, c'est complètement pertinent, quoi. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant et inspirant de dire, OK, nous, dans notre situation, c'est plus intéressant de faire ça parce que j'ai un peu l'impression, la tendance que dans notre marché, la messe, c'est cette techno-là. Les best practices, c'est ça, tout le temps, partout. Et il faut faire la même chose partout, tout le temps. Alors qu'en fait, non, c'est toujours du cas par cas. Et là, on a un exemple typique, flagrant, que oui, ça dépend, en fait. Ça dépend. C'est pas toujours... Il n'y a pas de solution miracle, quoi. Très intéressant.
Ouais. En tout cas... Non, mais c'est, en fait, oui, comme tu dis, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les médias, parce que là, on est vraiment sur du média.
Bah oui.
Une fois que l'article, enfin, pour avoir travaillé pas mal dans les médias, je connais un petit peu le domaine, et c'est vrai que la plupart des articles qui sont publiés sont parfois un petit peu corrigés derrière s'il y a une petite faute de frappe ou n'importe quoi, mais ils ont pas trop tendance à changer. Donc c'est vrai que dans le cas des médias, le rendu, un pré-rendu HTML est largement suffisant en fait. Et après, ouais, l'island component pour des éléments qui seraient interactifs comme les carousels ou des choses comme ça. Ça fait le job, en fait. C'est vrai que je pense que, enfin, en tout cas, c'est très logique ce qu'ils ont fait, je trouve. Et Raphaël, si tu veux venir discuter de ça sur, sur un épisode, t'es invité.
Quand tu veux, quand tu veux, tu viens. C'est parfait. Et ou si quelqu'un connaît Raphaël en perso ou dans son contact, il nous le tag et nous, après, on fait la connexion. Allez, on déroule. Petite MCP gouvernementale. Plutôt intéressant, où on dit toujours que l'État est toujours en retard. Pour le coup, DataGouv est quand même hyper intéressant. On avait déjà parlé des outils qui mettaient en place des API un peu étatiques qui nous servent, au lieu de passer par des Google Maps ou des choses comme ça, on peut aller taper directement des API étatiques. Et là, ils reviennent avec un nouveau MCP qui va aller parcourir les data, enfin tout le contenu en fait du site de DataGouv, c'est ça?
Ouais, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de data qui sont disponibles au niveau de DataGouv, data publique, il y a vraiment plein de trucs. Ça peut être les horaires de piscine ou des trucs comme ça de certaines villes. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Les places de parking disponibles, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ça peut permettre éventuellement de créer des services à partir de ça. Et donc là, souvent les API sont pas faciles à utiliser. Et là, le fait qu'ils aient sorti un MCP, alors c'est en bêta, c'est expérimental en gros, hein, c'est pour tester, voir si ça prend, etc. Mais ça fonctionne. Moi, j'ai testé avec, je sais plus avec quoi j'avais testé, avec Mistral, je crois. J'avais branché le MCP dessus et je lui posais des questions. Il a été chercher des data, il m'a sorti des data, il m'a dit ça disponible, etc. Et après, il pouvait les interroger. Donc, ouais, c'est pas mal. L'État, des fois, sort des trucs intéressants.
Et bien sûr. Non. Et toute l'équipe IT de DataGouv est plutôt super bien branchée et fait vraiment des outils super classe. Top. Tu parles de Mistral. Justement, Mistral a sorti Mistral Forge. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça va servir? Pourquoi ça serait intéressant pour les entreprises de s'y pencher sérieusement?
Alors, Mistral Forge, c'est tout frais. Hein, ça vient de sortir. C'est un nouveau système. Sur Mistral, pour ceux qui connaissent, dans Studio, quand vous avez un compte et vous branchez sur Studio, vous avez la possibilité déjà de fine-tuner un modèle. C'est-à-dire, vous prenez un modèle, vous mettez vos data, vous l'entraînez, etc. Et vous avez fine-tuné un modèle, donc il connaît un peu mieux vos modèles, vos data, pour pouvoir l'utiliser. Là, c'est un nouveau système qui se destine plutôt aux entreprises. Vous allez pouvoir prendre en fait un modèle. Alors, je ne sais pas s'il sera légèrement pré-entraîné ou, enfin voilà. Et vous allez pouvoir l'entraîner. Donc là, on n'est pas sur du fine-tuning, on est vraiment sur de l'entraînement avec vos data de l'entreprise. Et le modèle, du coup, va connaître parfaitement toutes vos data, etc. Donc, pour des entreprises qui ont énormément de choses pour l'entraînement et qui veulent l'utiliser en interne, etc., pour des documentations ou n'importe que sais-je, ça peut être super intéressant parce que là, vous avez vraiment un modèle spécifique avec vos data à l'intérieur, etc. Et il connaît tout par cœur.
Et donc, on pourrait dire que c'est le niveau au-dessus d'un RAG, par exemple. J'ai un modèle, je veux mettre toutes mes données, je les mets dans un RAG. Si je veux aller encore plus loin et je veux avoir mon propre modèle, je passe par ce service-là.
Ouais, c'est ça, c'est le RAG, c'est le contexte qu'on lui donne, mais on ne l'a pas entraîné. Là, je pense que le gros intérêt, c'est qu'il y aura moins d'hallucinations sur ce que tu vas lui demander spécifiquement. Et puis, surtout, ça sera plus rapide aussi. Parce qu'en fait, le RAG, tu es obligé d'aller chercher dans la base de données vectorielle, lui donner, etc. Il y a une latence. Là, c'est direct. Et puis, en gros, on pouvait déjà le faire. Hein, si tu prends des data... des IA engineers, n'importe quoi, ils sont capables de prendre un modèle et de l'entraîner, en fait. Mais là, c'est donner aux entreprises la possibilité de le faire facilement, en fait. Puisque là, oui. Tout sera fait pour le faire facilement.
Oui, Donc, en fait, eux, ils viennent avec un service qui permet de faire la création d'un modèle propre spécifique aux entreprises. Et ce qui évite, en fait, d'embaucher plein de mecs spécialisés pour que pour faire ça. En fait, ils viennent avec ce service-là de création de modèles, quoi, à destination des entreprises. Très, très
C'est pas mal.
niché. Ouais, bien sûr. C'est,
Parce
par
que
contre,
toi, on voit
ça reste
gouvernement
très.
agency, tu vois, on imagine très bien certains gouvernements qui vont vouloir développer des IA pour leurs services publics, tout ça, qui vont pouvoir le faire éventuellement à moindre coût. Alors après, on ne sait pas le prix encore, hein, ça n'a pas été révélé. Mais du coup, moi, je me suis inscrit, je vais voir. J'attends de voir comment ça va fonctionner.
Yes.
Mais ouais, c'est super intéressant, ça te permet aux entreprises d'avoir leur propre modèle plus rapidement et plus facilement, quoi.
Après, il y a toute la question aussi de la propriété du modèle. Est-ce que le modèle t'appartient? Est-ce que le modèle bascule dans, tu vois, l'usage unique? Tout ça,
Bah,
après.
Mistral fait, c'est quasiment eux qui font le plus de modèles open source. Enfin, c'est quasiment eux. Ils font beaucoup de modèles open source. Alors après, open source, il y a bataille entre, oui, ils donnent les poids, mais ils donnent pas les datas d'entraînement, etc. Bon, bref, on va pas se battre là-dessus. Mais Mistral, en tout cas, fournit beaucoup de modèles open source. Donc, ça sera certainement basé sur un modèle open source. Donc, logiquement, si tu entraînes, etc. Bon, après, c'est eux qui vont l'héberger certainement. Mais à voir comment ça va
Avoir le
fonctionner. Mais
business model aussi,
voilà.
si tu payes l'entraînement et l'inférence, tu payes que l'inférence, mais tu la payes plus cher. Enfin voilà, tout ça,
Ouais.
ça reste encore assez, on va dire, ça reste des questions en suspens. Mais le move est plutôt intéressant parce que les entreprises vont pouvoir se doter d'un propre modèle spécifique entraîné sur leurs propres sur leurs propres données avec ce service-là. Top. Et dans le dernier épisode sur l'IA fatigue, justement, on parlait, on échangeait sur le fait que potentiellement, ça pouvait être intéressant pour des agences ou des petites entreprises ou des plus grosses d'héberger en fait leur propre grosse machine pour faire tourner leur LLM des modèles en local et pouvoir en fait réduire la facture d'inférence parce que ça tourne tout en local. Au-delà, en plus de tout rester en local et donc d'être un petit peu plus en adéquation avec les règles de sécurité, on va dire, ça reste dans le
Oui.
réseau. Et justement, là, en fait, aujourd'hui, ou en tout cas il y a 2 jours, Dell vient sortir une machine qui répond parfaitement à cet usage-là.
Ouais, deux machines même.
Deux.
Deux machines, une GB10 qui s'appelle GB10 et une GB300. Donc, c'est des machines spécialement dédiées pour être utilisées en entreprise pour mettre un modèle dessus et puis voilà, faire de l'inférence, etc. Donc, le premier modèle, il y a le prix. GB10, c'est à peu près 5 000 euros. Ce que tu as... bon, c'est une bonne machine.
Oui, c'est une
Et
bonne
ensuite, le
machine.
GB.
Après,
Ouais.
pour un serveur sur une petite agence, c'est pas non plus un truc. Enfin, c'est pas déconnant, quoi.
Non, 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 ça... Et après, le GB300, il n'y a pas le prix encore. Donc, mais bon, on est carrément sur des performances. Voilà, il n'y a rien à voir. C'est 700, je sais plus combien de mémoire. Enfin, c'est assez énorme. Donc, bah voilà, on avait déjà les modèles Apple. Comment il s'appelle
Les Mac
pas
Mini.
le Mini. Non, le celui au-dessus, c'est le
Le
Studio.
Mac
Non, c'est ça, le
Studio.
Mac Studio.
Ouais.
Le Mac Studio, voilà, qui est déjà dans ces tarifs-là aussi. Hein. Mais pour les gens, voilà, qui voulaient pas de Mac ou d'Apple, bah. Maintenant, vous avez la solution avec Dell pour
Excellent.
programmer du Linux ou ce que vous voulez.
Excellent. Et intéressant de voir si des agences ou des entreprises en fait font le move d'héberger tous leurs serveurs ou en tout cas de rapatrier l'inférence en local.
Franchement,
Intéressant.
c'est une bonne solution, je pense, parce que quand tu as plusieurs développeurs, clairement, ça peut coûter vite très très cher l'inférence. Et là, en plus, comme il y a beaucoup de modèles chinois ou autres utilisables, open source, ça peut être vraiment intéressant de se pencher dessus, ouais.
Là,
Clairement.
tu contrôles vraiment toute ta chaîne.
Ouais.
Allez, on reste dans cette contrôle de la chaîne avec le retour d'un mort, on pourrait dire, je ne sais pas. En tout
Ouais, plus
cas,
ou moins, enfin, sur ses
ils ont,
cendres.
ils ont à moitié fait du recyclage sur un ancien éditeur de code qui s'appelait Flit, JetBrain. Ils l'ont rebrandé, ils l'ont remodifié pour faire ce qu'ils appellent JetBrain R, qui est Agentic Development Environment, où bah, Codex, Claude Code, Gemini, CLI et Juni peuvent s'exécuter dans un environnement dédié. Est-ce que c'est un IDE spécial plus pour faire de l'IA, ou en tout cas pour être assisté avec de l'IA?
En fait, c'est des. Comme je te disais avant, il y en a quasiment tous les jours qui sortent des trucs comme ça. Alors là, on n'est plus sur de l'IDE, en fait, on est vraiment sur de l'orchestration d'agents, de modèles. Tu leur donnes des tâches à faire. Chacun travaille dans son coin. Ensuite, tu vas voir ce qu'ils ont changé, voilà, les différences de code, etc. Tu vas valider, non, pas valider, etc. Donc, on n'est pas vraiment sur de l'IDE parce que, bon, certains où tu peux éditer le code, d'autres où tu ne peux pas vraiment éditer le code, tu dois sortir du système. Mais voilà, c'est vraiment de l'orchestration d'agents. Et tu les fais bosser et puis tu vois ce qu'ils font, ils te posent des questions, tu réponds. Alors, c'est particulier, hein, mais comme je te dis, il y en a quasiment tous les jours en ce moment. Donc, voilà, JetBrain. Qui édite pas mal d'éditeurs de code, ils ont sorti le truc basé sur Fleet, voilà, sur les cendres de Fleet, qui a jamais été,
qui n'a jamais connu le succès. Mais ok. Après, voilà. Le move est intéressant de savoir si on n'est pas en train de bouger, tu vois, où les développeurs en fait vont utiliser peut-être plus des logiciels comme ça pour créer, structurer leur code qui sera pondu par un modèle. Et eux, en fait, n'auront plus que à faire des petits ajustements ou des micro-ajustements, des corrections ou valider tout simplement. Mais on va peut-être passer moins de temps à écrire du code dans notre IDE. Donc, notre IDE, en fait, se doit aussi d'évoluer vers des choses qui sont plus de l'orchestration d'agents. Et c'est ce que... alors, perso, j'utilise Cursor, mais c'est ce que Cursor a fait déjà. Il y a déjà ce système d'orchestration. Et là, en fait, JetBrain vient avec son système R, qui, mais pour le coup, il le dédie, il le sort en fait de leur IDE pour faire que ça. Est-ce que le public, c'est les développeurs ou les ce que j'appelle les vibe codeurs? Je sais pas exactement. Je sais pas du tout.
Je sais pas quel public ça. Enfin, moi, je connais. Pour l'instant, je connais personne qui travaille de cette façon en fait. Enfin, apparemment, ça existe, mais peut-être ça va exister de plus en plus. Je sais pas. Voilà. Mais ouais, comme ça, orchestrer plusieurs agents toute la journée, je sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, JetBrain, c'est européen. Rappelons-le, c'est tchèque, je crois. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un produit qui est plutôt européen. Et en général, ils font des éditeurs qui fonctionnent bien. Donc, à suivre.
À voir, peut-être que ce n'est que le début aussi de ce logiciel-là.
Ouais.
Et qui va peut-être aussi le faire évoluer. Donc, de toute façon, nous, on suivra et on écoutera la suite, clairement. Yes! Allez, on reste dans le vibe coding ou en tout cas de l'utilisation de l'IA poussée plus. On connaît la guerre entre Vercel et Cloudflare. On va dire que c'est les deux boîtes ennemies jurées qui font un peu la même chose, mais différemment, mais au final, pas tellement, mais en fait, non. Là, pour le coup, Cloudflare s'est vanté, on va dire, ou en tout cas, a annoncé le fait qu'ils avaient recodé Next.js, qui, on se rappelle, a été développé ou en tout cas est encore maintenu par l'équipe de Vercel, donc les amis d'en face. Et Cloudflare dit qu'ils ont réussi à refaire Next.js en une semaine grâce à l'IA. Et donc, petit article pour célébrer ça.
Ouais. Alors, c'est pas ultra frais, ça date de fin février, mais donc pour les gens qui n'ont pas entendu parler... Donc oui, effectivement, Cloudflare a mis un développeur pendant une semaine avec du vibe coding, avec des agents, et il a recréé Next en une semaine pour un tarif de... Ouais, il y a $1,100 de token. Voilà, en gros. Donc,
c'est pas cher.
C'est sûr.
c'est pas cher. Après, en fait, le gros move qu'il y a derrière, en fait, surtout, c'est qu'il fallait le rendre sur vite, en fait. Et le gros truc qu'ils ont fait, c'est que c'est quand même de pouvoir, en fait, le mettre, de le faire tourner sur vite. Exactement.
Et
sur leur worker, exactement.
Ouais, en gros, c'est ça. Et le but, c'est ça, c'est de faire tourner sur des workers, tout ça. Donc, ils ont repris le fonctionnement global de Next, etc. Ils ont en gros copier tout ce qui se fait. Et donc voilà, donc tout le monde s'est dit ouais, c'est génial machin bidule, je vais l'utiliser, tout ça. Normalement, si tu vas encore sur le repo, c'est toujours marqué en développement, ne pas utiliser en prod, etc. C'est vraiment on va dire c'est plus de l'expérimentation, de voir si c'est possible en vibe coding de recréer un système complet, etc. C'était plus dans en gros c'était vraiment plus dans l'expérimentation que pour créer un concurrent annexe, hein. En gros, je l'ai vu comme ça. En fait, je crois que c'est marqué d'ailleurs un endroit. Et derrière, c'était évidemment. Alors, il paraît que Guillermo, enfin les deux, Cloudflare et Vercel, ne peuvent pas se voir en fait.
Ouais.
Et donc derrière, ils ont forcément analysé le code, tout ça. Ils ont dit, nous avons trouvé des failles. C'est bizarre, c'est exactement les mêmes failles qu'on a dans Next, etc. Donc en gros, ils les accusaient d'avoir tout simplement copié le code et adapté, etc. Donc voilà, c'est.
Et est-ce que après c'est la guerre, c'est le business, et donc c'est une guerre médiatique entre l'un et l'autre. Lui il dit que nous on est les meilleurs, les autres ils disent ouais c'est nul, on a tout copié. Après est-ce que vu que la source en fait c'était Next, l'IA a peut-être copié les erreurs qu'il y avait dans la source tout simplement. Donc peut-être que oui, elle a juste.
Ouais. Après, par contre, c'est vrai que dans l'article juste avant là de Cloudflare, ils remercient Vercel, tout ça. Ils disent sans leur travail, ça n'aurait jamais été possible, etc. Donc voilà, quand même, ils remettent. Ouais, il y a des remerciements, mais voilà, c'est expérimental comme ils le disent là, tu vois, dans ce paragraphe.
Ouais. Après, ce qui est intéressant, et c'est là où ça nous permet en fait, ça vient juste illustrer le propos, c'est que. Au final, maintenant, pour un coût dérisoire, parce que, OK, c'est 1100 dollars, c'est pas rien, mais c'est dérisoire par rapport à des années et des années d'ingénieurs que Vercel a dû payer pour développer ça. Donc, ça reste un coût marginal. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est potentiellement, on peut aller récupérer une techno et on peut la vibe-coder ou en tout cas l'espèce de cloner en fait, dans un laps de temps assez court pour une fraction du prix initial. Et c'est là où en fait, c'est super intéressant et c'est en ça où potentiellement, ça peut changer beaucoup, beaucoup de règles pour des SaaS, je pense, pour des agences ou des entreprises qui utilisent on va dire, 20% d'un SaaS. Là, ça vient illustrer le propos pleinement qu'on peut, récupérer et réintégrer ces fonctionnalités sur un code propre. Et une fois de plus, je vais faire mon capitaliste à deux bases, mais moi, je vois une opportunité business pour nous, développeurs, d'aller récupérer des parts de marché, des très gros qui ont croqué les entreprises. Et nous, on peut aller en disant, vous voyez, vos 20% là, on va les réintégrer, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc à faire. En tout cas, moi, ça m'inspire. C'est complètement inspirant.
Alors moi, ça me fait un peu peur, tous ces projets open source là, qui sont un peu vibe-codés, tout ça, parce que j'ai l'impression que... Alors, il y a celui-là, mais il y en a plein, hein, des petits développeurs, tout ça, qui vibe-codent des trucs, qui sentent des plugins, etc. Ça me fait un petit peu peur, tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est des... Alors, tu vas me dire, après, c'est pareil quand ils le faisaient à la main, hein, mais ça fait beaucoup de projets open source qui sortent et qui, à mon avis, une bonne majorité ne sera pas maintenue ou corrigée ou quoi que ce soit. Ça me fait un peu flipper maintenant de voir tous ces projets open source qui sortent, qui sont... On ne sait pas si c'est vibe-codé ou pas, on ne sait pas si ça sera maintenu, donc je suis encore plus...
Mais Patrick, qui te parle de
prudent
faire...
sur les packages que je vais utiliser maintenant, en fait.
qui te parle de faire de l'open source? Moi, je te dis d'aller vendre,
oui.
d'aller vendre
oui,
des
oui,
fonctionnalités, moi, tu vois. C'est ça qu'il faut voir, parce que l'article, moi, c'est ça qui... OK, c'est cool, ils ont fait ça, ils ont fait la guéguerre, tout machin... Mais moi, ce que je vois, ce que je sors et ce que je comprends, c'est que y a une opportunité à aller récupérer de la feature et nous à utiliser ce type de technique-là avec l'expertise métier qu'on a, avec on va dire la rigueur qu'on peut avoir, mais on peut aller taper du business. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est comme ça que je le vois.
Ok.
Voilà. Allez, on va parler de choses un petit peu plus légères, toujours en réponse, parce que quand on a vu qu'il y en a un qui sort une fonctionnalité, le concurrent va sortir une deuxième fonctionnalité, ou en tout cas une fonctionnalité concurrente. Et Vercel avait déjà fait une sorte d'uniformisation, en tout cas un protocole, un SDK AI qui permettait en fait de dialoguer avec ce SDK et on choisit le modèle, on choisit le provider et on a une uniformisation des entrées et des réponses. Et bah, dans cette même dynamique, Vercel en fait a sorti un chat de la même manière pour pouvoir échanger entre Slack, Teams, Google Chat, Discord, Telegram, WhatsApp. Et je trouve le move plutôt intéressant, quoi.
Ouais, c'est oui, c'est vrai que c'est clair. Souvent, c'est pas facile de se connecter à tous ces systèmes de chat, notamment WhatsApp. Enfin, c'est pas si simple. Du coup, d'avoir une API uniforme comme ça, c'est pratique. On choisit le provider, on peut même en mettre peut-être plusieurs. Et voilà, et on communique facilement. Alors, ça me fait de suite, on pense à OpenClaw. Qui a certainement donné l'idée de développer ce truc parce que c'est vrai que OpenClaw est disponible sur différentes messageries, tu vas le connecter et donc voilà, ça donne un truc facile à connecter sur les messageries et notamment sur des ça peut être utile aussi pour des agents où les gens vont contacter le SAV via WhatsApp et toi tu peux bah du coup connecter facilement un agent un modèle avec WhatsApp par exemple, donc c'est plus pratique, ouais. C'est bien.
Non, c'est très malin, surtout dans l'écosystème Vercel. Avec, en fait, c'est une continuation logique de leur SDK AI. Bah, en fait, comment on fait pour interagir avec ce SDK AI ? Bah, on vient mettre un SDK devant pour pouvoir donner accès, non pas que à des développeurs, parce que là, une fois que le développeur il a branché ça, là, c'est n'importe qui peut, via son système de messagerie, utiliser toute la suite des agents et de toute la suite. Donc, c'était la porte d'entrée. C'est, moi, je trouve c'est un move très, 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 très malin.
Bien joué. Ouais, regarde, si tu regardes les features un peu plus bas, tu étais dessus. Là, juste là. Tu as des trucs super intéressants, notamment le streaming. Tu vois, ils disent sur Slack, tu peux donc, utiliser le streaming donc, si tu utilises un modèle. Tout ce qui est cards modal. Voilà, tu peux faire des cards en JSX, donc en React,
ouais,
pour rendre sur WhatsApp, tout ça. Enfin, voilà, il y a vraiment, tu peux avoir une expérience vraiment avancée, en fait.
Avec cette, et tu peux envoyer des fichiers et tu as des direct messages. Non, c'est très malin. Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Et même des messages éphémères. Bon, on va pas faire des trucs à la Snapchat, mais mais dans l'idée, non, c'est plutôt malin. Yes. Allez, on reste dans les trucs assez malins, petits, légers, rapides, évidemment, avec de l'IA. C'est Zvec. C'est dur à prononcer. Tout simplement, c'est une surcouche de SQLite où on va pouvoir en fait sauvegarder en local.
Non, c'est pas une surcouche de SQLite, pardon, je te coupe.
Ah, mais... pardon, ok, non, vas-y.
C'est vraiment indépendant, hein, mais c'est... en fait, le fonctionnement est identique à SQLite.
D'accord.
En fait, en gros, c'est une base de données qui fonctionne, enfin, tu l'installes comme un package, en gros. Mmh. Et du coup, tu as une base de données vectorielle qui va fonctionner à l'image de SQLite. Et du coup, tu vas pouvoir mettre tes data dedans, tu vas avec embedder, évidemment, tu passes par un modèle, tu vas embedder les data, tu vas les mettre dedans, et ensuite tu vas pouvoir interroger. Donc ça peut être utile pour un modèle interne, n'importe quoi, des recherches ou ce que tu veux, quoi. Ou un e-commerce, enfin voilà.
Ok, ah ouais, donc en fait, sur un e-commerce, on pourrait faire en fait non pas du stockage de données sur le serveur, mais en fait c'est l'utilisateur qui stocke ses données sur sa machine, quoi, ou dans son appli.
Ouais.
Ou en fait dans son appli, il y a une partie en fait de stockage vectoriel et on vient tout garder, ce qui fait que la donnée est sur sa machine et non pas sur les serveurs.
Non, c'est sur les serveurs.
Ah, j'ai pas compris alors.
On va y arriver.
J'ai pas compris. Alors, c'est sur les serveurs ou c'est sur
C'est sur les serveurs, en fait. Tu as deux packages. Mmh. C'est sur les serveurs.
Ok.
Tu as deux packages. Normalement, pour l'instant, c'est Python et Node.js. Et tu vas installer ta base de données comme un package. Donc, tu fais un NPM. Si tu descends un petit peu, tu vas voir, il y a un NPM install. Je sais pas où c'est Python,
ouais.
Node.
One minute exemple. Ouais.
Et du coup, tu installes ton truc et ensuite, tu utilises ta base de données sans avoir à l'installer justement sur... Généralement, quand tu veux utiliser une base de données vectorielle, tu es obligé de l'installer sur ton serveur Ubuntu, okay. N'importe.
Donc, en fait, je comprends. En fait, c'est le SQLite de Pincode ou...
C'est ça.
Ok, j'ai compris. Pinecone, pardon. Ok, donc en fait, c'est toutes les bases de données vectorielles. Là, en fait, c'est un truc qui est un peu SQLite qui ressemble, mais c'est un fichier. Ok, j'ai compris. Merci, Patrick.
C'est une base de données portable, en fait, qui est pas... Voilà. Okay. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal du tout.
Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... ok, là, on voit Pinecode. Donc, c'est beaucoup plus
du coup, c'est simple à utiliser.
Beaucoup plus light et simple, accessible.
Bah, disons que pour des... ouais, comme je disais, le e-commerce, par exemple, tu veux, toi qui connais un petit peu le truc, tu veux présenter des produits reliés aux produits que tu es en train de regarder, bah, les bases vectorielles, c'est ce qui est idéal. Tu avais déjà donné l'exemple dans un épisode tenue de ski, et bah, du coup, tu as des gants, des trucs comme ça, ou des chaussettes, je ne sais pas.
Ouais.
Bah, voilà. Avec la base vectorielle, c'est facile de retrouver des éléments qui sont liés entre eux.
Ok. Et là, en fait, tu le mets directement sur ta machine. Ok, non, j'ai parfaitement compris. Mm. C'est encore plus intéressant. Ok.
Ben voilà. Et non, c'est top, en fait.
Top. Allez, on bascule dans l'univers Laravel PHP qui vient de sortir, et on vous montre la release note qui vient sortir une nouvelle version majeure, la 13. Ouais. Clairement, qu'est-ce qu'elle amène de plus, de mieux, de différent?
Alors, il n'y a pas de breaking change. Alors déjà, quand on voit le tableau, là, c'est on voit que la 12 sera maintenue jusqu'en 2027, tu vois, la sécurité. Et sinon, les bugs, c'est jusqu'à 2026, donc cet été, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vite passer à la 13 si vous avez un site en production pour avoir continuité de correction de bugs et de sécurité. Et puis, sinon, c'est une version qui apporte pas de breaking change particulier. Il y a pas de grosses features de dingue. Il y a des nouveautés ou plus ou moins des ajouts comme les... j'ai oublié le nom. Ça me reviendra.
Tu m'avais parlé d'un SDK qui était...
Oui, SDK, mais c'est autre chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Ok. en gros, le AISDK, alors on va parler du AISDK, est sorti, on est en mars, je crois que c'était fin d'année ou début d'année, il y a le AISDK qui est sorti, donc c'est un SDK qui permet d'interroger des providers facilement. Il y a une liste de providers, OpenAI, enfin tous les classiques, tous les plus gros. Tu vas mettre tes clés API, tu vas dire j'utilise ce provider et c'est réglé. Et en fait, tu utilises derrière un agent que tu vas créer et tu vas prompter dessus. C'est hyper simple à utiliser. Le premier coup, quand j'avais vu cet AISDK, j'avais dit ouais, c'est pas bof. Et puis finalement, je l'ai utilisé il y a pas longtemps et j'ai dit ah, mais c'est pas mal en fait. En fait, c'est plutôt pas mal. C'est bien pensé, c'est facile d'utilisation. Et donc pour l'instant, il fallait rajouter un package pour l'utiliser. Et cette version 13 l'inclut nativement. C'est-à-dire que maintenant, on n'aura plus besoin de rajouter de package. C'est directement dans le framework Laravel. On a le AISDK disponible. C'est ça que je voulais dire, les attributs. Voilà. Okay. Parce que tu as bien fait de scroller. Donc c'est l'AISDK qui est intégré. Les attributs. Alors les attributs, c'est un truc de PHP qui est très présent dans Symfony, mais qui était un petit peu moins dans Laravel. Donc là, ils en ont encore rajouté. En gros, c'est des attributs comme ça. Tu vas mettre un dièse ou un H avec des crochets, tu mets des trucs dedans. Et du coup, ça donne des indications à PHP sur comment se comporter par rapport à ça. Tu vois, tu autorises, ça veut dire que tu as le droit de créer que si tu as l'accès au poste. Enfin voilà. Donc les attributs, c'est pas mal. C'est beaucoup présent dans Symfony. Ça arrive de plus en plus dans Laravel et les développeurs aiment bien ça. Moi, je suis pas super fan, mais bon. Et après, il y a aussi ça, là, juste dessous, le sémantique vector cherche qui sera natif. C'est-à-dire qu'avec PG Vector, qui est dans PostgreSQL, si tu l'as, eh ben, tu pourras directement interroger la base vectorielle avec l'embedding, tout ça.
D'accord. Tout Donc, en fait, ça amène une compatibilité avec les bases de données vectorielles, et ce de manière native. Ok, excellent.
En fait, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'AI est de plus en plus présent dans Laravel, l'IA. Et en plus, il y avait Laravel Boost, tu sais, c'est un système pour éditer le code, tout ça, où ton AI, ton modèle que tu as dans l'éditeur, il peut interroger Boost et dire savoir ce qu'il doit faire, tout ça, machin. Et ben, sur cette migration, tu peux directement migrer avec Laravel Boost. C'est-à-dire que tu fais une commande migrate et le modèle est capable de te migrer toute ta base de code sur la 13 grâce à... Voilà. Donc, on voit que c'est l'IA de plus en plus présente. Ouais,
c'est beau. C'est et on voit aussi, et ça arrive, on voit ça quand même de manière de plus en plus courante, en tout cas de plus en plus sur les migrations, où il y a vraiment un effort qui est fait par tous les personnes qui entretiennent ces packages majeurs de faire des assistants de migration pour justement en fait, faciliter la migration et de, qui nous permettent à nous, développeurs, de rester toujours à jour dans nos versions. Très bien. Et je refais ma petite minute capitaliste pour dire que vendre ces migrations et ces accompagnements, ces maintenances, c'est aussi une très belle opportunité de business. Et donc, si en plus, on a des outils qui nous permettent de faciliter ces migrations-là, c'est encore plus facile. C'est easy money, comme on dit.
Allez. Ouais, alors ça dépend des migrations.
Ouais, exactement.
Ça dépend des migrations. Tout ça. Et d'ailleurs, petit aparté, on a migré le site double slash sur Tailwind 4. Donc,
ça y est, enfin voilà. Merci Patrick pour ce job. Merci.
Parce que ouais, je commence à être rodé là. J'en ai fait plusieurs des migrations de 3 à 4.
C'est vraiment toi qui a fait de bout en bout. Et donc, chapeau à toi.
Ouais, d'ailleurs, si vous voulez migrer votre site Tailwind 3 à 4, je suis dispo.
Mais peut-être que tu nous ferais pas une petite démo de savoir, en fait, peut-être tout ce qui est best practice, tous les problèmes que tu as rencontrés, comment tu as contourné ça. Ça pourrait être super intéressant. Peut-être.
Ouais.
Okay. Ça pourrait peut-être être intéressant. Ouais. Allez, on enchaîne. On bascule sur... On revient sur l'univers vite. Avec la nouvelle version qui est vite 8, c'est sorti. Et est-ce qu'on pourrait dire que, sans faire de jeu de mots, c'est encore plus rapide?
Ouais, c'est ça en fait. C'est toujours plus rapide, toujours plus vite. Et en gros, la grosse nouveauté, c'est on avait sur la version 7, on avait deux bundlers, dont Rolldown, qui était en... Je sais plus si c'était expérimental, je sais plus comment on le flaguait. Enfin, fallait indiquer que tu voulais l'utiliser. Et ben, sur la 8, en fait, il n'y en a plus qu'un. Parce que du coup, ça leur simplifie la vie. Et en plus, il est devenu production de ready, en fait. Il est performant. Et donc voilà, la grosse nouveauté, c'est ça. Un seul bundler et, en Rust, qui est ultra rapide. Et d'ailleurs, ils mettent des chiffres d'entreprises qui ont déjà affirmé qu'ils gagnaient du temps au niveau de la production, du build en production.
Donc, on a Linéaire voilà. Qui passe de 46 secondes à 6 secondes. T'as Mercedes. Pardon?
C'est énorme.
Ah ouais, c'est juste fou. Énorme. Ils ont réduit de 38% le temps de build chez Mercedes-Benz et BIV, 64% de réduction. Oui, c'est là, on n'est pas sur de la petite augmentation, quoi. Donc très très intéressant. Ok. Et on reste toujours dans cette unité. Ouais, vas-y.
Et surtout, non, j'allais rajouter, c'est que ce qui est cool avec Vite, c'est qu'à chaque fois qu'on migre, ben en fait, c'est hyper simple. Ça casse quasiment jamais rien. Donc, tu passes de 6 à 7 à 8 sans problème.
Et ça, c'est beau.
Oui, mais carrément, quoi. C'est clair. Ça, tu peux gagner 50% de build rien qu'en changeant la version, quoi. Enfin, à moins que tu aies vraiment une config super particulière, mais bon, la plupart du temps, ça va, quoi.
Top. Non, vraiment, vraiment top. Et. On reste dans cet univers Vite parce que on sait que maintenant en fait Vite fait partie d'un écosystème, une organisation, une boîte je crois même, en tout cas qui s'appelle Void Zero, et ils viennent de sortir ou en tout cas ils ont lancé une landing page sur laquelle on peut déjà s'inscrire pour aller récupérer Void Cloud, donc c'est void.cloud. Et on voit en exemple, hein, il y a du React, du Vue, du Svelte, du Solid. Et tout est hébergeant. Ce que je comprends, c'est que c'est de l'hébergement.
C'est une plateforme de déploiement.
Ah, donc, ça vient en frontal de Vercel, tu es en train de me dire?
Totalement.
Ah,
totalement.
C'est bon ça. Excellent.
Bah, c'est cool d'avoir une autre option. Non, c'est une plateforme de déploiement pour bah, basée sur toute la toolchain de Vite, etc. Et qui est basée sur l'infra de Cloudflare. Voilà.
Ah, ce qui a fait d'un petit peu pareil. Ah, ok. Sur couche de Cloudflare pour rendre le déploiement plus un peu plus friendly, parce qu'on ne peut pas dire que l'interface de Cloudflare soit vraiment sexy pour comprendre tout et pour voir, pour lire.
Ouais,
c'est un peu compliqué, c'est un peu le truc sur Amazon.
Ouais,
et,
ouais.
C'est ce qui a fait que Evan Yu a dû réagir.
Evan s'est énervé, ça arrive pas souvent.
Au storm sheet qu'il a pris dans la tête quand il a publié ça.
Bah ouais, a priori il y a beaucoup de critiques par rapport au fait que ça soit vendor locké en fait, donc Cloudflare, et donc il a tout simplement répondu que oui c'est vendor locké parce que c'est très fortement couplé à Cloudflare puisque ça va utiliser tout ce qui est DB, storage, tout ça, IA, etc. Et que bah, si ça ne vous plaît pas, vous utilisez autre chose. Quoi. En gros, ce qu'il a répondu. Voilà.
Moi, j'adore. Ouais. Moi, je trouve ça super bien. Et c'est un peu ce qui me dérange dans l'écosystème tech, tout. C'est qu'il y a des mecs quand même qui font des outils de maboule qu'on utilise au quotidien. Et mine de rien, on gagne de l'argent avec ça parce qu'on les utilise, ces outils. Tous ces outils, souvent, sont gratos, hein, sont open source. Donc nous, en clair, on fait du pognon avec des outils qui sont open source. Et les mecs continuent à sortir des nouvelles fonctionnalités parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils gagnent du pognon. Et, ouais. Et ils se prennent un shitstorm en disant « Ouais, mais c'est pas optimum, c'est pas tout parfait ». Mec, les mecs, vous abusez, je trouve. Vraiment, là, les gars, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Je trouve que c'est vraiment abusé. Mais bon, on ne peut pas... Ouais. C'est comme ça. C'est la toxicité de notre écosystème, peut-être, on va dire.
Ouais, je ne sais pas trop. En tout cas, il rappelle que Vite, c'est plateforme agnostique, donc Excel restera. Donc, c'est pour ça qu'après, il dit, tu peux utiliser Nitro ou Adonis si tu as envie, enfin, ce que tu veux. Mais voilà. Par contre, là, voilà, c'est leur choix, ça va être payant, etc. Donc, ouais, ils font bien ce qu'ils veulent. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire, ils sont quand même couplés avec une plateforme qui est quand même bien faite. Je veux dire, oui. Cloudflare, c'est quand même super truc. Donc, bon. À voir ce que ça va donner, mais bon. Moi, je ne me suis pas inscrit sur la waiting list. Toi, tu vas le faire, mais tu me feras tester.
Moi, je le ferai. Moi, je le ferai. C'est clair. Moi, je le ferai parce que j'ai envie de tester. Allez, toujours couplé à tout cet écosystème, il y a une solution qui s'appelle Vite Plus qui vient de sortir en alpha. Qu'est-ce que ça amène de plus, sans faire de jeu de mots à deux balles?
Mais en gros, Vite Plus, c'est un package. Donc, un seul package, c'est-à-dire que tu vas faire juste un NPM install. Vite Plus, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais Vite Plus, enfin, on va dire.
Je crois que c'est VP la commande. C'est VP.
Ouais, la commande, c'est VP. Alors, je ne sais pas s'il va s'appeler VP le package. Enfin, il s'appelle déjà peut-être. Enfin, bref. En gros, c'est un package qui inclut Vite, Vitest, EXLint, EXFMT, Rolldown et TSDown. Du coup, tu as tout le package des outils. En un seul truc, tu vas mettre à jour qu'un seul package, etc. Donc, tu n'as plus 50 lignes dans ton package.json. Et du coup, tu as des commandes VP pour faire du lint, pour faire du build, pour faire... Voilà, tout est inclus dedans, en fait, du test, etc.
OXLint, qui est l'équivalent de ESLint, et OXFMT, qui est l'équivalent de Prettier.
Ouais, c'est ça.
Avec des stats, des performances de Maboule.
Oui, parce qu'en fait, tout est basé sur du Rust. Tous les outils sont Rust, codés en Rust. Du coup, c'est tout est ultra rapide, ultra performant. Voilà.
Top. Et je suis curieux de voir si... non, mais... Enfin, ouais, j'ai envie de tester ça. Ça me paraît vraiment bien.
Ah ouais.
Il faudrait du... Ouais, pour voir, pour tester, pour voir si juste en dev ou au moment où on construit sur le build. Il y a un truc qui m'interroge, ou en tout cas qui me plaît bien, là, c'est Vite Task.
Ouais, c'est ça, ouais.
Pour, en fait, être en capacité d'exécuter des tâches. Après, est-ce que c'est
des
de manière...
scripts, en fait.
Ouais.
Des scripts que tu aurais fait. Alors moi, ça m'arrive. Et j'en ai pas mal sur plein de projets. Je fais souvent des petits scripts Node, hein, classiques, pour faire générer des icônes, des favicons, des trucs comme ça. J'aime bien faire des scripts comme ça. Et du coup, je les lance tout simplement avec une commande script dans le package.json. Et du coup, avec ce système-là, tu pourras les lancer directement avec Task, le système de Vite Plus. Donc, il faut voir les avantages, mais ça a l'air pas mal. Je trouve que honnêtement, je trouve que c'est un bon produit parce que, enfin, on est tous pareils. Hein, on fait des tests, on fait du lint, on fait du Prettier, on fait des trucs comme ça. Et à chaque fois, on est obligé de mettre plein de packages, toujours les mêmes sur tous les projets, on recommence à zéro à chaque fois. Et là, le fait d'avoir un seul package installé et tout va marcher direct, c'est quand même vachement plus confortable.
Eh oui. Non, non, il y a, c'est sûr, c'est sûr. L'écosystème JS sur lequel il y avait beaucoup de retard, ou en tout cas tous les outils étaient fragmentés en fait, sont en train de s'unifier, de se standardiser, un peu bah, comme on parlait tout à l'heure de Laravel, où en fait bah, tout est inclus dans Laravel. Là, en fait, l'écosystème JS, en tout cas via Vite, Vite Plus et grâce à Void Zero justement, tend à s'uniformiser pour créer un écosystème global, fiable et qui nous permet en fait de pouvoir implémenter en un seul package et une seule commande.
Bah, c'est comme, Vite Plus là, enfin Vite et Vite Plus sont en train de devenir le cargo de Rust en gros. Sur Rust en fait, enfin, je dev pas en Rust, mais je sais que Cargo fait tout en fait dans Rust. Tu as une commande et puis tu fais tout. Et en gros, Vite Plus, ça va devenir ça en fait. Tu auras Vite Plus, VP. Et ça fera tout. Et puis voilà. Donc en gros, de toute façon, tous les frameworks utilisent Vite, en majorité. Ils vont certainement migrer sur Vite Plus quand ça sera disponible. Et puis voilà, on aura tous les mêmes outils et on ne se prendra plus la tête. Quoi.
Tellement plus simple. Merci les gars.
Merci. Bah oui.
Merci.
C'est Merci. Clair.
Allez, on bascule sur autre chose. Perplexity, qui est, on va dire, le moteur de recherche, en tout cas le service qui a pour vocation, si on devait le présenter en une phrase, de migrer ou en tout cas de fusionner entre Google et un LLM, ça ferait Perplexity. Donc, c'est de la recherche augmentée avec de la génération de synthèse et tout ça. Perplexity revient avec une nouvelle offre, un personnel computer. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, ils ont annoncé ça il y a quelques jours et on sait... Enfin, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais en gros, ça va être un open claw de Perplexity. Ça ressemble à ça, donc c'est un truc que tu vas pouvoir lui discuter avec. Tu vois, ils disent, tu peux lui parler de partout, je crois. Ils disent, c'est marqué n'importe quel device et lui donner des instructions, etc. Donc, ça fait penser à open claw direct, quoi. Donc voilà.
Donc en fait, ça serait une sorte de VPS d'une machine en fait qui est dédiée uniquement pour pouvoir interagir. Donc c'est un peu l'équivalent d'un VPS plus OpenClaw qu'on aurait installé, configuré nous-mêmes. Donc pour nous développeurs, ça reste accessible. Mais là en fait, c'est pour rendre cet écosystème VPS plus OpenClaw plus modèle plus interface directement accessible pour Martine ou Madame Michu, quoi.
ouais, c'est ça. Alors, sachant que, alors de toute façon, aujourd'hui, OpenClaw, tu as beaucoup de d'hébergements, de providers qui le proposent en un clic, en fait. Hein. Tu as beaucoup d'hébergements. Enfin, quasiment, pas tous, mais beaucoup ont sorti OpenClaw en un clic. Donc, tu peux, tu cliques, ça t'installe sur un VPS ou je sais pas où, et après, tu as un OpenClaw disponible pour un certain prix. Pas forcément toujours intéressant, puisque alors actuellement je suis en phase de test d'OpenClaw.
Excellent.
Je l'ai installé sur un VPS Infomaniac à 8€. Voilà.
Donc, et ça tourne
Alors au début j'avais mis 3€. J'étais avec 2 Go de RAM et j'ai eu quelques problèmes à des moments de mise à jour, donc j'ai dû augmenter un petit peu. Si tu veux, le modèle il tourne pas sur ma machine en fait.
Bien sûr.
Alors j'utilise Minimax en ce moment, qui est pas mal, pour un coût très modique au niveau du token, donc très intéressant.
Véracité des infos que ça sort, enfin des infos qui sort, est intéressant.
Ouais, il marche très très bien. Et du coup, c'est OpenClaw. Au fur et à mesure que je l'utilise, je me rends compte que c'est vraiment peut-être cette utilisation qui est intéressante plus que ChatGPT ou des trucs comme ça. En fait. Parce qu'en fait, tu donnes des choses à faire, il les fait, etc. Il est capable d'installer des choses, des outils. Par exemple, je lui ai fait extraire du texte d'un PDF. Alors, du coup, il a été chercher un outil pour extraire le texte du PDF. Et du coup, il le garde sur mon VPS. Donc là, je lui ai redemandé tout à l'heure de résumer un PDF. Il l'a fait en moins de temps, du coup, parce qu'il a déjà la machine disponible et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment intéressant. Et après, par contre, il faut savoir le régler, sécuriser, etc. Je lui ai donné des instructions parce qu'au début, tu vois, tu lui dis fais-moi ça. Hein? Et le mec, il t'installe des trucs comme ça sans te demander, en fait. Alors après, je lui ai dit bah, maintenant, quand tu installes un truc, tu me demandes et tout. Okay. Il faut vraiment l'éduquer, en fait. C'est super intéressant. Mais cette utilisation, je trouve plus intéressante que tout ce qui est ChatGPT, tout ça. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'en fait, des gens comme Perplexity sortent Personal Computer, que ça ne m'étonne pas qu'OpenAI ait embauché le gars qui a créé OpenClaw. Parce que peut-être que c'est ça l'avenir, en fait. Voilà.
Ok. C'était la prédiction voyante de Patrick.
Non. Le truc, c'est que apparemment, j'ai regardé plusieurs vidéos et les mecs ils disent ouais, alors OpenClaw, il y en a plein qui l'ont installé, qu'on joue avec, et puis après ils le désinstallent ou ils laissent tomber parce que, alors a priori, la plus grosse complexité, en fait, avec OpenClaw, bon, mis à part de l'installer tout ça, de machin, c'est de trouver des usages qui sont intéressants avec lui, en fait. Voilà, de trouver à quoi tu peux l'utiliser, voilà, qui sont plus intéressants parce que tu peux par exemple faire pas mal de scripts, tout ça, de workflow avec N8N ou des trucs comme ça. Donc t'as pas forcément besoin d'OpenClaw pour le faire. Mais après, avec OpenClaw, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, je lui fais là, j'ai testé, il me fait un résumé de news tous les matins à 8h, il me l'envoie. Je l'ai branché sur GitHub, alors je lui ai créé un compte GitHub à part, tu vois. Du coup, quand j'ai... Ah oui, je vais pas lui donner mon compte. Du coup, quand je travaille sur un repo, je mets en reviewer et lui, il va vérifier toutes les 5 minutes. Et j'ai mis un cron, il va vérifier toutes les 5 minutes s'il n'y a pas un truc à review et donc il va mettre son commentaire, tout ça, machin. Tu vois, il y a plein de... Voilà, il faut trouver des idées, en fait, intéressantes.
Ouais. Et à la limite, si vous êtes là sur... arrivé jusqu'au bout de cet épisode-là, ce que je vous propose, et vous êtes utilisateur d'OpenClaw, vous avez des use cases qui sont super intéressants, vous les mettez dans les commentaires et on fera une petite review et de toutes les listes des meilleurs commentaires qu'on a trouvé sur l'usage et vraiment la fonctionnalité qui font c'est juste énorme OpenClaw, c'est vachement intéressant de partager, mettez-les en commentaire et évidemment le petit pouce, le petit like, le petit partage comme d'habitude, vous connaissez la musique, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je te propose, on revient sur un truc un peu plus code.
Code. Ouais.
Un truc visuel, mais on sait que le visuel et l'UX, c'est super intéressant. Quand on doit jouer avec des floats ou des. Là, pour le coup, c'est des chiffres numériques qui défilent. Et on a cette espèce de micro-bug où, en fait, la largeur d'un 1 n'est pas la même que la largeur d'un 9. Et donc, potentiellement, visuellement, ça frétille et ça fait un peu mal aux yeux. Et il existe, en fait, une propriété CSS pour régler ça.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas ultra nouveau, hein. Mais c'est juste qu'elle est, je pense, vraiment méconnue. Et on a tous eu le problème du compteur, machin, qui s'affiche avec des chiffres et tout ça. Et qui fait exactement ça. Là, en fait, comme tu dis, les chiffres n'ont pas tous la même place. Du coup, ça bouge. Et cette propriété, tabular nums, fait en sorte que ça met une largeur fixe et que ça arrête de bouger, en fait, sur le numéro.
Tellement bien quand tu joues avec des floats, en tout cas avec des chiffres à virgule qui évoluent et qui bougent dans le temps, c'est juste trop, trop bien. Mm. Un truc tout simple, je pense que ça, dans moins de 2 heures, c'est en prod parce que c'est tellement bien, tellement bien.
Ouais, je suis content d'avoir trouvé une solution.
Ouais, trop bien, trop bien. Merci Patrick. Un autre truc sur lequel je suis complètement hypé, c'est un package JSON, qui est complètement framework agnostique, mais qui va aller jouer avec la propriété haptique de notre téléphone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la propriété haptique, c'est la vibration. En tout cas, créer une vibration sur demande. Alors, on pourrait, au premier abord, on était limité sur le fait que ça soit que du web. Ce n'était que des... pour Le web haptique n'était... l'haptique n'était que disponible que sur les SDK propriétaires et natifs. Donc, quand on faisait du web, on était baisé, on ne pouvait pas les utiliser. Et grâce à ce package-là, en fait, on va pouvoir utiliser le web haptique. Et donc, dans nos applications web, on va pouvoir intégrer ça. Et je trouve ça juste trop, trop classe. Alors, on ne peut pas faire la démo parce que c'est une vibration.
Non, c'est mobile,
on,
ouais.
On enregistre sur un desktop, mais le site s'appelle aptic.lochi.me et c'est juste trop bien parce qu'on peut customiser en fait le trigger aussi bien sur des choses un petit peu plus longues, des trucs soft, des modes validation succès, du warning, des choses comme ça. Et je suis complètement hypé par ça, quoi.
Ouais, ouais, ça en fait, c'est un package qui est pas très gros. J'étais regardé un peu les sources. Ça joue sur la propriété Navigator Vibrate. Et mais en fait, quand tu vois, j'ai essayé de la mettre en place Navigator Vibrate et ça marche pas forcément très bien en fait. Sur le... Et là, par contre, eux, ça marche. En fait, c'est bizarre. Donc, et du coup, ouais, t'as plein de différentes vibrations. Et tu vois, donc success, warning, tout ça. T'as même un. Je crois que le dernier, c'est il vibre pendant un petit moment. Ouais, le buzz là. Ouais, le buzz en fait, il fait bzzz comme ça. Là. Voilà, et c'est vraiment excellent. Et ça marche super bien, en fait. C'est un petit package de quelques KO. Et ça peut, tu sais, sur mobile, en fait, quand tu cliques sur un truc, tu as un retour, en fait, sous le doigt, en fait. C'est génial.
Top. C'est topissime. Alors, pour le coup, ça ne sera pas dans 2 heures en prod, ça. Mais,
c'est facile à mettre en place. Hein.
mais je pense que c'est vraiment facile. Ouais, comme tu dis, facile à mettre en place. Et surtout, ça amène une vraie valeur pour l'utilisateur. Je pense à une validation de panier ou des choses comme ça. Mmh. Quand on est sur mobile, voilà, on fait une action, on a une interaction. Ouais, c'est plutôt bien. Après, je me pose la question, est-ce qu'on laisse l'utilisateur le choix d'activer ou de désactiver cette vibration-là.
Ah, je ne sais pas s'il y a l'option pour la désactiver.
Bah, en fait, non, mais nous, c'est à nous de la coder, ça.
Tu vois, en JS. Fait, ouais, mais c'est pas. Après, c'est pas comme de l'animation où ça peut gêner les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux ou des trucs comme ça, ou du cerveau.
Je ne sais pas. Ouais. Tu vois, je me pose la question. Quoi.
C'est moins gênant, donc.
Ouais, je me pose la
question. En tout cas, c'est dispo sur pas mal de trucs, sur React, Vue, TypeScript et Svelte.
Svelte.
Après, je l'ai implémenté en JS pur et ça marche nickel.
Top. Ah, franchement, ouais. Propre. Je suis méga hypé, méga fan de ça. Trop bien. Et là, par contre, tu m'as vendu du rêve avec. on avait fait un épisode sur BetterHot, et donc qui était en fait la solution un peu ultime pour la mise en place de l'authentification. Et là, il y a quelque chose qui sort qui s'appelle Paykit.sh et qui se veut en fait un peu la même chose, mais pour les paiements, c'est ça ?
Ouais, en gros, ça a l'air d'être ça. En fait, en gros, une API. Et différents providers. En gros, tu as toujours la même API, les mêmes codes, et tu sens juste le provider, Stripe. Alors, pour l'instant, ils n'en ont que 2 officiels, je crois, mais certainement d'autres vont arriver. Après, peut-être une bêtise, il y en a, parce qu'ils en affichent plusieurs, ouais, Polar, Paddle, tout ça. Donc, peut-être il y en a de plus. Bah, en gros, ouais, tu as le code, et tu veux changer de provider, bah, tu changes juste le provider sans changer le code. C'est génial.
Ouais, c'est vachement bien. Après... la limite que je vois, c'est que quand tu es dans un univers tech, tout PayPal, Stripe, Polar, c'est assez admis. Dans l'univers un peu plus structuré, société, souvent ils ont des deals avec des banques. Et là, c'est plus
général.
Et là, c'est plus du tout la même parce que tu dois gérer avec l'interface, tu vois. Et ça, c'est l'enfer. Donc, sur le papier, c'est super bien. Après, dans la pratique, tu vois, en fait, si tu restes dans ton provider, ça passe. Si tu passes sur des providers un peu plus restreints, parce que ton client, il a signé un deal avec la banque et machin. Toi, tu arrives derrière, tu peux pas dire non, mais on va changer, on va mettre Stripe, tout. No way, c'est pas comme ça que ça se passe.
c'est
juste pas possible. Donc,
par contre,
ce que je vois, c'est qu'il y a potentiellement une possibilité de rajouter un provider et donc potentiellement, en fait, ils vont peut-être faire un SDK ou en tout cas un espèce de package pour pouvoir mapper les fonctionnalités entre leur système à eux et le système dans lequel tu voudrais, toi, te connecter. Et ça,
C'est tellement, tu vois, c'est tellement récent qu'il n'y a même pas la doc encore dispo, tu vois. Donc c'est vraiment tout frais. Mais ouais. Clairement, ouais, ils vont faire. C'est obligé qu'ils mettent la possibilité de mettre un custom parce que sinon ça limiterait trop les choses. Mais par contre, oui, pour lancer un truc voilà, rapidement avec du Stripe, quoi, c'est, bah là, c'est royal, quoi. Ça va super vite. Et si après, ouais. Oui, effectivement, tu veux changer de banque ou quoi, bah, tu peux éventuellement le faire en custom à voir si c'est facile à implémenter. Mais...
Alors après, sur la mise en place d'un Stripe, clairement, aujourd'hui, on parle en heures, quoi. Ça va quand même super, ouais. Super vite. Par contre, l'avantage ouais. De passer par un intermédiaire, c'est que si demain, tu veux augmenter ou en tout cas ajouter un autre provider de paiement, l'avantage de l'avoir codé une fois au préalable avec PayKit, l'intégration d'un deuxième provider de paiement, en fait, sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple parce que tu auras uniformisé tout en amont. Donc, ça, c'est plutôt bien. Par contre, vu la doc, on est hyper early stage, quoi.
C'est clair. Ah oui, d'accord. Okay. Ça vient de sortir, c'est tout.
Ouais. C'est pas production ready, quoi. Ouais. Je vais pas faire ma migration, quoi. Tu vois.
Ouais, je sais pas la version. Il faudrait voir le GitHub, mais je sais pas quelle version ils en sont, mais c'est vraiment chaud. Ouais, c'est tout frais, quoi.
Ouais, mais sur le papier, c'est super bien. Je pense que c'est complètement pertinent. On gardera un œil sur ce repo-là parce que. La promesse est belle, en tout cas, la promesse est vraiment belle. Donc, à voir si
ça va. Ouais, t'as vu quand même, faire du JS maintenant, ça devient vraiment tellement facile avec Vite Plus, Better Auth, PayKit, enfin, tous uniformes, c'est génial. Quoi.
T'imagines qu'il y a 10 ans, on se faisait, insulter, on se faisait maudire dans tous les sens, on nous riait, on disait non, mais c'est, on comprend rien, votre JS est verbeux pour rien, tout, et mine de rien. Complètement.
Aujourd'hui, ça devient super simple.
Ah, ouais. C'est clairement. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison, Patrick. Il faut le souligner. Il faut le dire. Allez, petit article de Corben qui nous rappelle que le super IDE de Google Anti-Gravity a fait un move assez violent pour le porte-monaie.
Ouais, il revient sur Anti-Gravity qui était sorti fin d'année dernière. Un super fork de VS Code avec Google Gemini dedans. Ouais, Gemini. Intégré, etc. Donc, truc classique et tout ça. Donc, au début, c'était gratuit. Faites-vous plaisir, machin, tout ça. Après, c'est devenu, en gros, c'est passé de gratuit à 300 balles par mois, en gros, en quelques mois, finalement. Puisque là, il donne l'exemple de quelqu'un qui est passé de gratuit après à 22 euros avec soi-disant un quota assez large, mais finalement, c'était pas écrit. Après, ils ont enlevé le quota et finalement, bah, il dépassait les quotas assez rapidement. Et puis, en fait, si tu veux plus, bah, c'est 300 euros. Donc, voilà. Donc, voilà. En gros, il raconte tout ça dans l'article. Donc, de gratuit à 300 euros par mois, en quelques mois.
Ouais, après, la vraie question, c'est est-ce que le modèle de token à ce prix-là reste viable dans le temps ? C'est le fond, en fait. C'est le fond. Est-ce que en fait, Google n'est pas obligé de faire évoluer ses tarots parce qu'au final, le prix du token, il a été subventionné beaucoup trop de gens pendant trop longtemps. Et donc, le système n'est pas tenable. Donc, on migre vers autre chose. Après, est-ce que les autres vont suivre le move ou ils ont plus de thunes et donc, ils veulent rendre les développeurs encore plus captifs et encore plus intoxiqués à l'IA pour qu'une fois que tout le monde est complètement addict et ne peut plus faire sans, là, ils disent maintenant, on monte les tarots.
On y est déjà en fait parce que en fait il s'était basé là ce qu'il raconte aussi c'est qu'il s'était basé sur le reset tous les 5 heures là comme anthropique de tes limites là et mais en fait c'est après ils l'ont enlevé apparemment faut lire l'article mais tu vois comme quoi ils étaient pas sûrs machin bidule mais c'est un peu amateur de la part de Google en fait de mettre des conditions et après de les enlever discrètement tout ça sans rien dire. Mais on se rend compte que ça coûte relativement cher. Si tu utilises Claude Sonnet, le prix est presque indécent. Je ne sais pas si tu as vu le output, le prix, mais c'est oui. 25 $, je crois. Donc c'est très juste. Cher. En fait, si tu ne passes pas sur un forfait à 100 $ ou à 200 $, tu peux quasiment rien faire. En fait. Ça part très, très vite. Quoi. Et surtout si tu veux utiliser un modèle performant. Donc c'est déjà ultra cher. C'est pour ça que je parlais de Minimax, qui est un modèle assez intéressant. Pour un tarif 20 fois moins cher en fait.
Ok.
Que du cloud. Donc, bon.
Et justement, quand tu parles de qualité et de code, petit article d'un confrère du Québec qui nous dit que quand l'IA fait du vibe coding et écrit aussi les tests, comme ça, ces tests, en fait, lui, il a testé les tests et il dit que c'est pas toujours tip-top, c'est ça ?
Ouais, c'est un article sur le fait que de se reposer sur les tests quand tu fais du vibe coding ou tu fais coder par un agent, c'est pas forcément fiable parce que l'IA peut te faire des tests où elle fait pas tous les use cases. Des fois, elle joue un peu sur les tests, c'est un peu tout ce qu'il explique. Lui, il fait du Go, tu vois. Et il explique que les tests, en fait, 100% de coverage, c'est pas forcément vrai. Des fois, en gros, l'IA, c'est un peu te berner avec les tests en disant ouais, c'est bon, ça passe les tests, ça marche. Mais en fait, non, pas vraiment. Et donc, il donne plein d'exemples, tout ça, où non, elle a pas pensé à ça, elle a pas pensé à ça. Là, ça marche pas, etc. Donc, il dit, ça faut vraiment pas se fier, en fait, aux tests. On peut pas dire juste, je vibe code, si les tests passent, c'est bon. Parce qu'en fait, non, c'est pas bon. Voilà.
Donc, est-ce qu'on pourrait juste se prémunir de ça en attachant un petit peu plus d'attention sur la validation des tests ou peut-être augmenter le nombre de tests, de vraiment planifier en amont tous les use cases un peu bâtards à tester pour justement en fait, éviter de tomber dans une validation un peu trop rapide et avec un coverage trop élevé un peu, on va dire, mitonné, quoi.
Moi, je trouvais qu'une bonne technique pour faire écrire du code ou des fonctions, c'est en gros d'écrire les tests. Tu écris toi les tests avec le résultat que tu veux. Et ensuite, l'IA se base sur ces tests et écrit le code que tu... Voilà.
Du vrai TDD, quoi.
Du TDD. Et ça marche pas mal parce qu'en fait, du coup, l'IA sait exactement ce qu'elle doit ressortir avec la fonction, tout ça, ta méthode. Et une fois que les tests passent, c'est toi qui les as écrits et tu sais que c'est bon. Voilà. Là, tu peux avoir confiance.
Okay.
Et encore, des fois, il faut refactoriser un petit peu la fonction, mais ça, c'est une bonne méthode, je trouve.
Yes, ça marche. Et dernier article qui, toujours dans cet esprit de vibe coding, ou en tout cas de coder assisté avec l'IA, il y a une étude qui a été menée sur le long terme. Et c'est pas super top, c'est pas super c'est fiable, pas c'est pas top, ils sont pas contents, ils disent que il faut faire attention.
Non, c'est alors on va finir là-dessus. C'est une étude sur le long terme, et je crois que c'est la première. Donc c'est Alibaba qui a testé 18 agents de codage sur 100 bases de code réelles, donc du vrai code, c'est pas juste un test, sur 233 jours. Donc on est sur une longue période. Et il s'avère qu'en fait, les modèles, ils ont un peu tendance à casser le code sur le long terme. En gros, ils sont très bons pour sortir du code rapidement, tout ça, à court terme. Mais sur du long terme, en fait, ils ont tendance, 75% des modèles ont tendance à casser le code fonctionnel pendant la maintenance, en fait, du code ou l'ajout de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'ils sont capables de casser des trucs pour ajouter une fonctionnalité. Donc, ils ont, en fait, au fur et à mesure des itérations, ils rajoutent du legacy. Et pour l'instant, c'est pas très concluant pour une utilisation d'agents d'IA sur le long terme sur du gros code base.
Ok, c'est ce qui en ressort. Après, une fois de plus, c'est qu'est-ce qui est, comment ils testent, quel est leur protocole et
tout est dedans, ouais.
Et je pense qu'il y a pas, tu vois, il faut pas résumer. Dire le vibe code, faut arrêter, c'est nul, c'est pas bien, c'est pas fiable.
Non.
Il faut à l'inverse, non, mais en fait le vibe code, c'est il faut faire que ça, il y a que ça. La vérité, je pense, est un petit peu plus au milieu et il faut faire ça en bonne intelligence, du bon sens et garder notre valeur ajoutée nous en tant que développeurs sur des choix, sur de la relecture. Il faut pas tout prendre pour argent comptant. Yes. Très intéressant cet épisode, Patrick. Top. Ouais. Plein de nouvelles différentes. Top. Écoutez, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode, un grand merci à vous. Un petit pouce, un petit like. Vous connaissez la musique. Ça fait toujours plaisir de partager. On remercie tous ceux qui nous sponsorisent via GitHub Sponsor. Un grand merci à eux. Et on vous dit à la fois prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao, Patrick.
Yes.
Ciao, ciao tout le monde.